Alors, je ne sais pas si vous connaissez Brownie War. Je ne sais pas si je dis bien Brownie Rare. Je sais pas. Je fais comme si j'étais anglophone, il faut vous dire anglais, mais je ne le suis pas du tout. C'est une infirmière australienne en soins palliatifs qui a accompagné de nombreux mourants durant les derniers jours, leurs derniers jours, à poser, et en plus, elle a posé cette question donc, dans cet accompagnement. À votre avis, quels pourraient être vos 5 plus grands regrets à l'automne de votre vie? Et elle, émue par leurs réponses sincères et authentiques, mais aussi bouleversée par la similitude de leurs témoignages, elle a souhaité les partager au travers d'un livre qui s'intitule « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie ». Et voici ces 5 plus grands regrets. Vivre sa vie et pas celle des autres. Fort, hein ? Deuxièmement, consacrer moins de temps à son travail. Sous-entendu, en fait, plus de temps pour les relations. Troisièmement, exprimer plus ses sentiments. Que ce soit dans les temps difficiles où nous devons oser dire à quelqu'un qu'il nous a blessés et puis pouvoir régler les problèmes, mais aussi nos sentiments, dire à quelqu'un « je t'aime ». Quatrièmement, rester en contact avec ses amis. Et cinquièmement, s'autoriser à être plus heureux. Fort comme liste, hein. Une chose qui retient mon attention quand je lis cela, c'est que dans ces regrets, ces personnes n'ont tout simplement pas osé. Oser vivre la vie qu'elles voulaient vivre, oser prendre du temps dans leurs relations, oser dire leurs sentiments, oser vivre leurs rêves. Une des choses qui donne le plus de bonheur et qui a un fort impact dans notre vie et dans celle des autres, c'est d'oser vivre des relations profondes. Si nous voulons vivre une vie sans regret, il nous faut vivre des relations profondes avec les autres. Plusieurs personnes, quand je dis cela, sont en difficulté par rapport aux relations profondes. Plusieurs ne veulent plus de relations profondes à cause de souffrances du passé. Et on le sait très bien, plus on s'approche de quelqu'un, plus on va loin dans une relation, et plus on devient vulnérable, et il y a un risque fort d'être très blessé quand ça ne va pas dans la relation. D'autres personnes ne veulent plus de relations profondes parce que ça coûte trop cher en temps. Elles préfèrent donner la priorité à leur projet, à leur travail ou à leur loisir. Mais on l'a bien vu tout à l'heure, en fin de vie, on dit les choses différemment. D'autres encore ne veulent plus de relations profondes ou se protègent pour d'autres raisons. La timidité, le manque d'estime de soi, le manque de confiance dans les autres, etc. Et on le sait, plus on fuit les relations et plus on est dans un danger d'addiction qui peuvent nous amener très loin. Soyons clairs ce matin. Vivre des relations profondes n'est pas une chose facile. Encore moins aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui nous poussent dans des relations virtuelles qui nous font croire que nous vivons de vraies relations alors que nous affichons tous des façades qui ne révèlent pas qui nous sommes vraiment. Et je parlais hier avec un couple de relations profondes, on parlait d'amitié, et c'est impressionnant d'entendre cette personne me dire, mais en fait, on était en mode définition de l'amitié et de relations profondes, et très vite, on était sur une relation assez... de façade, quoi. Les gens ont l'habitude d'entendre parler d'amitié ou de relations de façade plutôt que de relations profondes à cause de tellement de choses dans cette génération actuelle. Et on sait très bien, quand on pense à ceux qui sont très Facebook, ben les amis Facebook ne sont pas des relations très profondes, n'est-ce pas? Ce matin, nous continuons notre série de messages qui s'intitule « Sauver pour ». Et le titre du message de ce matin est le suivant, sauver pour aimer. Est-ce que tu sais que Dieu t'a créé pour aimer? Dieu t'a créé, il m'a créé pour aimer. Voilà pourquoi le résumé de toute la loi de Dieu, de toute la volonté de Dieu pour nous, c'est d'aimer. Et Jésus le dit très bien dans Marc 12, versets 29 à 31, voici le plus grand commandement, le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Ce texte est clair, nous avons été créés pour aimer Dieu et aimer notre prochain, donc nous aimer les uns les autres. Dieu nous a aussi sauvés pour continuer à nous aimer. Jésus-Christ est venu sur terre. Par sa mort et sa résurrection, il nous libère de la rébellion envers Dieu, de l'esclavage du péché, de la mort, de l'enfer, non seulement pour rétablir notre relation avec Dieu, mais aussi pour nous aimer, pour aimer Dieu et nous aimer les uns les autres. Le but de Dieu est celui-ci, aimer. Dit autrement, vivre des relations parfaites en amour pour Dieu et pour les autres. Si le but de Dieu, c'est que nous vivions un amour parfait, écoutez bien, si le but de Dieu, c'est que nous vivions dans un amour parfait, un amour incroyable doit caractériser les enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée ? C'est super important. Nous devons avoir les uns pour les autres, avec les autres, des relations profondes. Les relations de façade, en fait, reflètent le péché de l'homme. Les relations profondes dans l'Église doivent devenir chose normale parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour cela. Une bonne question, c'est pourquoi Dieu veut-il que nous ayons des relations profondes ? La meilleure réponse, c'est pour sa gloire, pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit glorifié. Dans sa prière à son Père, avant de mourir, Jésus a dit ceci dans Jean 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Vous voyez, ici, la gloire de Dieu qui nous est donné, est lié à l'unité, lié à l'amour. Et ici, il y a, c'est écrit parfaitement un, comme Dieu lui-même, dans sa Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est parfaitement un. Mes amis, comment la gloire de Dieu peut-elle se manifester ? Comment l'Église peut-elle honorer Dieu ? Et comment l'Église peut être un témoin puissant de son œuvre auprès des non-croyants, si elle ne sait pas vivre des relations profondes. Ce n'est pas possible. Dès les débuts, l'Église que Jésus-Christ a commencé à bâtir a vécu une chose folle par la puissance du Saint-Esprit. Les chrétiens étaient capables de mettre tout leur bien en commun. Si on essayait de faire ça ce matin, ce serait la guerre, n'est-ce pas ? Je rigole. Les chrétiens étaient capables de mettre tout leur bien en commun. Imaginez un peu, oser s'ouvrir aux autres au point de donner tout ce que nous avons. C'est tellement fort. L'Église doit vivre un amour intense, fort, démesuré en son sein. Sinon, elle ne peut pas s'appeler Église. L'Église est Église parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit. L'Église est Église parce qu'elle a un amour intense pour Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter à là. L'Église est Église parce que les croyants vivent dans un amour intense les uns envers les autres. Il y a dans l'Église des relations profondes et vraies. Ça va ? Dans ce monde, l'amour fou doit venir de l'Église pour afficher, élever la gloire de Dieu et proclamer la véracité du message de l'Évangile. de Jésus-Christ. Voulons-nous être l'Église dans toute notre manière de vivre? Nous devons alors, si nous disons oui, vivre un amour intense et fou les uns envers les autres. Un amour où nous sommes prêts à nous sacrifier les uns pour les autres. J'aimerais t'encourager, nous encourager ce matin à avoir des relations toujours plus profondes les uns avec les autres. Il est clair que nous ne pouvons avoir de relations profondes avec tout le monde, sinon ça demanderait tellement de temps. Mais tu dois tout faire pour rechercher des relations profondes et vraies, pour encourager les autres et honorer Dieu. Alors, je vais m'arrêter là sur ce que je viens de dire et j'aimerais maintenant être pratique. Lors de notre week-end d'église en octobre 2018, ça date d'un an, je vous ai posé plusieurs questions et j'aimerais en sortir une ici. Comment faire pour avoir des relations profondes? Et les réponses qui sont affichées sont vos réponses, enfin, de ceux et celles qui étaient présents à notre week-end d'église. Il y en a 8. Oser aller vers les autres, donc s'ouvrir, prendre des initiatives, passer du temps avec eux, les inviter, apprendre à les connaître. Ensuite, savoir écouter, communiquer, échanger, partager. Autre point, faire du bien aux autres, être attentif à leurs besoins sans rien attendre en retour. Il y avait aussi l'importance de la confidentialité, on l'a entendu tout à l'heure quand nous parlions des groupes de maison. Être vrai, authentique. Ensuite, accepter les autres comme ils sont, avec leurs défauts. Connaître le langage d'amour pour pouvoir parler ce langage aux autres. Si un tel aime plutôt les cadeaux, pouvoir parler ce langage. Si un autre aime plutôt le langage du toucher, ben, pouvoir lui toucher l'épaule, en tout cas lui montrer un geste d'amour pour lui. Et un autre point, prier pour les autres. Alors, toutes ces réponses, vous entendez, sont très pertinentes. On pourrait passer énormément de temps à juste détailler chaque point. Je vous invite maintenant à voir quelques points pratiques qui ne sont pas cette liste-là, mais qui vont être la liste de Manu. Mais voilà, en réfléchissant, voilà un peu la liste que je vous propose ce matin. Le premier, va peut-être vous étonner, c'est dire bonjour avec beaucoup d'attention, d'affection. Dire bonjour avec beaucoup d'affection. Alors ça peut paraître bête, n'est-ce pas, de parler, de juste de dire bonjour, mais ça a vraiment son impact. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis très touché quand je rencontre des personnes pour la première fois, et puis on se rencontre de temps en temps, mais on ne se connaît pas, et puis à force, comme on se voit régulièrement sur les mêmes passages, moi quand j'amène Noé et Lucie à l'école, je vois forcément les mêmes parents régulièrement. Et ça me touche beaucoup quand on se dit bonjour. Et donc, moi, j'ai l'habitude de dire bonjour aux gens, et les gens me renvoient le bonjour. Je me rappelle d'une personne qui est très dure à sortir le bonjour. Donc, j'ai dit bonjour, mais la personne est vraiment... c'est dur, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, plus la personne est dure, et moins on a envie de rentrer en relation. C'est difficile, en tout cas. Ça rend difficile la relation. Je me rappellerai toujours de Jean-Claude que vous avez connu ici, hein, Jean-Claude Chong. Et très tôt, assez souvent, on se retrouvait, quand on a commencé à servir Dieu ensemble, lui pasteur et moi pasteur, donc deux pasteurs dans l'église d'Ozoir, c'était une bénédiction, n'est-ce pas, pour cette église. Et je me rappellerai toujours, à chaque fois on se voyait assez régulièrement, mais lui était dans ce bureau juste ici, moi dans le bureau là-bas. Et une chose qui m'a touché, et c'est quelque chose que c'est un geste que j'aime faire, mais j'avais ce geste de sa part, c'est j'arrivais, je me retrouvais donc à la porte là, et je faisais un coucou. Et lui m'envoyait à chaque fois l'appareil. Et c'est tout bête, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et donc, toutes sortes de salutations ou de bonjours peuvent toucher et amener plus loin dans les relations. Et combien de relations se sont ouvertes que j'ai vécues où ça a commencé avec un bonjour chaleureux, attentionné. C'est rare qu'on ait envie de s'ouvrir à quelqu'un de froid, n'est-ce pas? On sera plus attiré par des gens qui montrent de l'amour. Les apôtres avaient bien compris l'importance des salutations affectueuses dans l'Église. Vous savez combien de fois on retrouve cette phrase « Saluez-vous les uns les autres » il ne faudrait pas mettre le texte, en fait. « Saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. » Combien de fois ? Une fois. Non. 30 fois. Non, non, pas autant, quand même. Comment ? J'ai entendu 6. On est proche. C'est juste un peu, moi. Voilà, 5. 5 fois, dans 5 lettres, deux apôtres, Paul et aussi Pierre. Saluez-vous, donc je le répète, saluez-vous les uns les autres en vous donnant le baiser fraternel. C'est pas juste saluez-vous, mais il y a toujours cette notion du baiser fraternel. La pratique qui consiste à se faire l'accolade et à embrasser les amis sur la joue ou sur le front était courante à l'époque de l'Ancien Testament. Les apôtres ont encouragé les églises à continuer cette pratique pour manifester l'amour entre frères et sœurs dans la foi. Donc, on doit vivre ça. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Aujourd'hui, et ça c'est important d'entendre, certaines cultures le font autrement. Et donc, ce serait pas une bonne chose de penser que ça veut dire qu'il faut faire forcément s'embrasser. Ce n'est pas ce que le texte est en train de dire. Il y a une culture quand même qui est présente ici. Mais il y a ce mot qui me paraît vraiment important, qui est ce baiser fraternel. Fraternel. Ici, il y a ce côté, l'affection qu'on donne à l'autre. Donc comme je disais, aujourd'hui, certaines cultures le font autrement, en donnant une poignée de main. Mais l'idée ici, c'est de se saluer avec beaucoup d'affection, chaleureusement, les uns les autres, parce que nous sommes une famille. Pour ceux qui sont très tactiles, qui aiment le toucher, je vous invite à respecter les cultures ou les personnes qui n'aiment pas qu'on les embrasse ni qu'on les touche en tenant l'épaule ou par une accolade. Bien sûr, il est important de se respecter les uns les autres. Mais que ce soit en disant juste bonjour, en levant la main, ou en embrassant, ou en serrant la main, ou avec un geste, saluons-nous les uns les autres chaleureusement, avec un sourire, montrant en fait notre joie d'être ensemble, d'être avec l'autre dès le début de notre rencontre. Une chose importante à retenir, dire un bonjour affectueux ouvre des portes pour des relations profondes. Dire un bonjour affectueux ouvre des portes pour des relations plus profondes. Deuxièmement, être aimable. Philippiens chapitre 4, verset 5, aïe aïe aïe, nous dit ceci, « Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. » Je rappelle que dans les Écritures, souvent on mentionne le mot « homme », mais pas pour exclure les femmes, hein. Voilà, et il y a un côté enfin, pour tous, en fait. Et vous remarquerez ici, faites-vous connaître. Ça veut dire que c'est même pas je manifeste mon amabilité envers tout le monde, c'est je me fais connaître. C'est un témoignage. Ça, les gens en parlent. Ça va beaucoup plus loin que je le fais. C'est tellement visible que les gens en parlent. Lui, quand tu vas vers lui, il est aimable. Comment tu définirais cette personne ? Ah ben lui, il est tout le temps en train de médire, il est tout le temps en train de... tellement négatif. Enfin, non, sommes-nous aimables ? Et quand on parle de l'amabilité, c'est être connu en fait pour notre douceur, notre patience, notre gentillesse, notre facilité à pardonner. Donc il y a l'humilité dedans et notre bienveillance. Nous aurons des relations plus profondes si nous cherchons sans cesse à faire le bien aux autres, par nos paroles, nos actions, nos services. Rares sont les gens qui ne sont pas touchés par ceux qui cherchent sans cesse à faire plaisir aux autres de manière désintéressée. Soyons ces personnes. Troisièmement, se rendre disponible. Se rendre disponible. Nous avons besoin de temps pour construire des relations profondes. Si on est en mode... j'ai fini, j'ai d'autres choses à faire. À chaque fois qu'on voit une personne, ça va être difficile hein, d'avoir une relation profonde. Ça prend du temps pour que l'un et l'autre s'ouvrent de plus en plus se fassent confiance pour oser parler de sujets plus personnels. Je pense que vous l'avez remarqué dans les groupes de maison. Hein. Le groupe, quand il se crée ou quand il y a des nouvelles personnes qui intègrent, ben, ça prend un peu de temps. Puis petit à petit, on voit une personne s'ouvrir, une deuxième personne s'ouvrir, une troisième personne. Ça prend du temps. On a besoin de temps avant de s'ouvrir. Et j'en profite pour dire que vous ne faites pas, si vous faites partie d'un groupe de maison, vous n'êtes pas obligé de dire toute votre vie. Hein? Parce que je me rappelle qu'il y a des personnes qui sont venues me voir et je sentais cette crainte. Ben, tu ne fais pas partie d'un groupe de maison? Non. Mais pourquoi tu ne veux pas en faire partie? Et très vite, la personne, elle parle de ben, je n'ai pas envie de dire ma vie. Et ce n'est pas un lieu où on est censé, on est obligé de dire toute notre vie, où des gens vont tirer les verres du nez, etc. Non, non. C'est des lieux où on se respecte les uns les autres. Et j'ai vécu ça aussi, d'avoir des personnes qui ne s'ouvraient pas pendant plusieurs années et qui petit à petit se sont ouvertes. Et moi, je crois que dans les groupes de maison, comme dans cette église, ces personnes ont leur place. Amen. Donc, laissons les personnes prendre le temps de s'ouvrir. Et si vous avez quelqu'un qui est fermé comme une huître, eh bien, elle est aimée de Dieu. Aimons-la. Et petit à petit, elle s'ouvrira dans les relations. La Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16, « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Et dans une autre traduction, « Rachetez le temps. » Les jours sont mauvais. On peut penser à beaucoup de choses, les jours sont mauvais, mais on peut aussi penser tout simplement à la souffrance, que les souffrances présentent, le fait que nous sommes dans les derniers temps et que nous attendons le retour de Christ. Les jours sont mauvais aujourd'hui, Satan attaque, nous ne devons pas gaspiller notre temps. Dieu nous invite à ne pas gaspiller notre temps. Et la meilleure façon d'utiliser notre temps, c'est de faire la volonté de Dieu. Et nous l'avons défini tout à l'heure, la volonté de Dieu, elle se résume en un mot, aimer, l'amour. Aimer Dieu plus que tout et aimer notre prochain. Alors, construisons des relations profondes, c'est ça, racheter le temps. Rendons-nous disponibles pour quelques personnes afin de les encourager, les consoler, les faire grandir et les pousser à vivre pour Dieu. C'est bien de se rendre disponible, de donner de notre temps, mais bien plus. Nous devons donner un temps de qualité. J'en connais des personnes qui quand vous parlez avec elles, ben, vous allez très peu parler. Et moi, je fais partie de ces personnes où si je suis en train de dire un truc passionnant, je peux prendre une grosse partie dans la relation. Mais le mieux, c'est de donner un temps de qualité aux personnes avec qui nous sommes. Je vous disais cela, c'est donner 10 minutes de notre temps en étant pleinement présent est bien mieux qu'une heure en restant centré sur nous-mêmes sans vraiment être là pour l'autre. Vous êtes d'accord? Nous devons nous rendre disponibles pour l'autre et tout faire pour que ce soit un moment de qualité. Un jour, je discutais avec une personne sur les relations profondes, les relations d'amitié, pour savoir comment aller plus loin. Et cette personne m'a dit une chose très simple. Vois cette personne régulièrement. Déjeune avec elle une fois par mois, par exemple. Bloquez des temps réguliers pour échanger et approfondir votre relation. Mes amis, provoquons des événements qui permettent de construire des relations plus profondes. Pour cela, nous pouvons régulièrement nous téléphoner, nous voir, partager des repas ensemble, fêter des anniversaires, nous rendre service, etc., etc. Quatrième point, s'intéresser à l'autre. On ne peut vivre des relations profondes si notre but est d'impressionner les autres, qu'ils nous aident à exister, fassent grandir notre estime de nous-mêmes ou comblent nos besoins personnels. Là, je viens de dire beaucoup de choses là qui sont clairement notre problème à tous, en fait, d'une certaine manière. Agir ainsi, c'est se servir des autres pour nous-mêmes et c'est totalement égoïste. Si nous vivons une relation, c'est pour manifester notre amour pour l'autre et non pour consommer, être en mode consommateur. Je suis là et l'autre est censé répondre à toutes mes attentes, à tous mes besoins. Je me souviens de ce jour où j'avais parlé à un ami que j'apprécie beaucoup, quand je discutais avec lui, c'était pour lui dire à quel point je ne me sentais pas tout le temps à l'aise dans mes relations. Parce que, avec mon passé, il y a pas mal de choses que j'ai vécues qui font que, dans les relations, parfois je suis maladroit ou je n'ai pas la parole facile, etc. Et pendant que je lui dis ça, il était surpris. Il me dit, toi Manu, ne pas être à l'aise dans les relations, vraiment, je vois plutôt le contraire. Tu es très à l'aise dans les relations avec les autres. Et donc pendant qu'il me disait ça, forcément j'étais très encouragé. Mais une chose m'a libéré dans ce temps d'échange avec lui. Il m'a dit ceci, dans toutes tes relations, ne mets pas le zoom sur toi, sur ce que tu dois faire pour réussir dans tes relations ou sur ce que les gens pensent de toi. Mais mets le zoom sur les autres. Vis pleinement tes relations en aimant les autres. C'est très vrai. Il nous arrive à tous, dans les relations, d'être plus attentifs à nous-mêmes, à nos pensées, à ce que nous pouvons dire et à ce que nous voulons montrer de nous qu'à l'autre et ses besoins. Je vous encourage, nous encourage ensemble, dans nos relations, à apprendre à tout simplement aimer les autres. Apprends à vivre les relations en aimant pleinement les personnes à qui tu t'adresses. L'amour, c'est entrer dans l'univers de l'autre. L'autre ne voudra peut-être pas, je dois le respecter si ce n'est pas possible, mais l'autre doit voir en moi un désir de le connaître, d'aller dans son univers, non pour l'embêter, mais juste parce que je l'aime et m'intéresse à lui. Et si je n'aime pas quelqu'un, je ne ferai que du monologue, je passerai mon temps à parler de moi et je ne chercherai pas en fait à connaître l'autre, ce qu'il aime, ses passions, ses besoins, etc. Le véritable amour s'intéresse vraiment à l'autre et se met en mode écoute. Cinquièmement, s'ouvrir à l'autre. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » L'amitié, ou une relation profonde, est ici décrite par Jésus comme une relation où nous disons ce que nous avons sur le cœur. Jésus a dit à ses disciples ce qu'il avait de plus précieux, connaître le cœur de Dieu, sa volonté, ses projets. Jésus a amené ses disciples dans une profonde intimité avec lui. Les relations profondes, les amis, se développent si nous osons nous ouvrir aux autres. Certaines personnes ont cette facilité de s'ouvrir très vite aux autres. J'en fais partie. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Pour plusieurs, c'est difficile de dire à quelqu'un des choses plus personnelles. Cela s'apprend. Et pour y arriver, ça demande du temps. Nous ouvrir à l'autre, ce n'est pas passer notre temps à parler de nos victoires et présenter sans cesse une belle façade de ce que nous sommes, ou de ce que nous ne sommes pas en fait. C'est plutôt oser dire ce que nous faisons, nos projets, nos désirs profonds, nos convictions sur des sujets, nos sentiments, mais aussi nos peurs, notre stress, ce qui ne va pas. Il est clair que nous arrivons à nous ouvrir davantage à quelqu'un en qui nous avons confiance. Mais osons nous ouvrir toujours un peu plus dans nos relations pour qu'elles soient plus profondes. Agir ainsi nous permettra d'avoir des relations plus profondes et d'être en bénédiction pour les autres. Et les autres aussi être en bénédiction pour nous. Sixièmement, respecter l'autre. Les relations profondes se développent aussi quand nous respectons les autres. Si je tire les vers du nez de quelqu'un, pousse cette personne de force à s'ouvrir ou à donner son opinion sur une situation alors qu'elle ne le veut pas, je détruirai la relation. Si je ne garde pas les confidences d'une personne, la relation s'arrêtera très vite. Si je donne tout de suite des solutions à quelqu'un qui se confie ou si je la juge très vite, il ne voudra plus continuer à se confier. Respecter une personne ouvre la porte à des relations profondes. Respecter l'autre, c'est être une personne de confiance, qui garde les confidences, qui ne juge pas, qui laisse la liberté à l'autre de s'ouvrir ou pas. Respectons les autres. Septième et dernier point, je suis obligé de donner ce point, puisque celui-là, c'est inévitable, c'est pardonner. Pardonner ou demander pardon. Il est impossible de vivre des relations profondes sans exercer le pardon. Plus on s'approche de quelqu'un dans la relation, plus on peut être blessé par l'autre. Je l'ai vécu plein de fois. Plus j'aime quelqu'un, j'approfondis la relation, on vit des choses super, et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est chaud. Nous devons être prêts à pardonner quand la personne nous a fait du mal et à demander pardon quand nous avons nous-mêmes mal agi. Pardonner à quelqu'un pour ses fautes, c'est laisser sortir ma douleur. Pas de manière, sans aucune retenue, puisqu'on peut sortir des mots qu'il ne faut pas sortir. Et de toute façon, si on vient pour pardonner, normalement, ce sont les beaux mots, des mots choisis. Mais nous devons sortir notre douleur devant l'autre pour dire ce qui nous a blessés. Et enfin, abandonner mon désir de vengeance. Le pardon, c'est oser s'humilier devant l'autre. Ce n'est pas simple. Et suivant la profondeur de ce qui nous a blessés, nous aurons besoin de l'aide de Dieu et peut-être d'une personne pour arriver à pardonner. Pour certains ici, ou peut-être plusieurs, je ne sais pas, mais ou en parlant de maintenant ou du passé, vous savez à quel point le pardon n'est pas chose facile. Et il y a des gens qui pensent que demander pardon ou pardonner, c'est une chose... On le fait comme ça. Hein? Je te demande pardon ou je te pardonne. Et voilà, c'est un acte, paf. C'est, voilà, on l'a fait une fois et c'est fait. Mais ce serait faux de dire ça. Il y a des situations où le pardon est un processus. Retenez ça, c'est libérateur. J'entends des gens qui sont liés, qui ont du mal à vivre le pardon et ils souffrent encore aujourd'hui, même dans leur relation avec Dieu. Et j'ai envie de te libérer ce matin. Le pardon est un processus. Dans certaines situations, ça prend beaucoup de temps. Et Dieu est un Dieu qui comprend, qui t'aime et qui va t'aider petit à petit à pardonner pleinement. Ça peut prendre du temps, suivant la situation que tu traverses. J'aimerais dire cette chose importante pour finir sur le pardon. Quand nous ne nous entendons pas avec quelqu'un sur un sujet et que nous commençons à entrer en conflit, souvent, nous voulons gagner la bataille par nos mots, nos arguments. C'est comme si on est sur un ring, hein, et puis, bam, ouais, j'ai gagné. Mais écoutez bien ceci. Si je gagne, si tu gagnes, l'autre perd. Et si tu gagnes et l'autre perd, vous deux, votre relation perd aussi. Je ne gagne jamais le « nous » si je gagne. Je gagne le « nous » si nous gagnons ensemble. Et si je vise le « nous », le pardon vise le « nous », le pardon vise la relation. Et très souvent, quand on est en conflit, on a envie d'avoir raison. Hein. C'est très difficile de dire « bon allez, on fait taire notre orgueil, notre égoïsme pour s'humilier et vivre le pardon. » Faisons gagner le « nous » pour retrouver la relation. Donc, humilions-nous, soyons prêts à pardonner, à écouter nos torts et à demander pardon. Disons aussi à ceux qui nous a blessés, si quelqu'un nous a blessés, sans attendre que l'autre nous demande pardon à notre manière. J'en connais beaucoup aussi qui... oui, mais est-ce qu'il t'a demandé pardon? Oui. Enfin, est-ce qu'il t'a pardonné ou demandé pardon? Oui, mais... Enfin, je parle plutôt de quelqu'un qui m'a blessé, donc je dois lui pardonner, mais lui doit me demander pardon pour ce qu'il m'a blessé. Est-ce qu'il t'a demandé pardon? La personne me dit oui, mais... Et puis, il n'a pas fait comme si, il n'a pas assez reconnu ceci, il n'a pas assez, vous voyez? Et on est là, il devrait encore faire pénitence, vous voyez, la personne là qui est, comme dans l'Ancien Testament, le sac et la cendre, les coups de fouet devant moi, comme ça, oui, c'est bon, maintenant je peux te pardonner, parce que maintenant tu comprends. Hein? Ça, c'est dangereux aussi. Et ça ne nous libère pas et ça ne libère pas l'autre. Et nous ne sommes pas forts dans... Personne n'est très fort dans le fait de demander pardon ou de pardonner. Ce n'est pas quelque chose de simple. Je vais conclure. Mes amis, Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes une famille. Nous devons rechercher des relations profondes. Osons ces relations profondes pour honorer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que ce soit possible. Vous qui êtes mariés, ayez une relation toujours plus profonde avec votre conjoint. Si ce n'est pas le cas, depuis X années, vous dites « Mais oui, mais ça fait 40 ans qu'on est ensemble, c'est bon, c'est fini. » Non, ce n'est pas normal. Si vous êtes un véritable croyant, vous avez reçu le Saint-Esprit, normalement, vous devez avoir une relation encore plus profonde. Bien sûr, ça veut dire que l'autre va dans le même sens aussi. Hein. Si je suis le seul à aller avec ça, c'est juste unidirectionnel, enfin, si c'est juste dans un sens, ça va être compliqué. Ça doit aller dans les deux sens. Ayons des relations profondes dans notre vie de couple. Et quand je parle de ça, attention, je parle du couple, mais le mari ne peut pas avoir une relation plus profonde avec une autre femme. Et l'épouse ne doit pas chercher des relations plus profondes avec un autre homme. Parce que il y a de l'ambiguïté dans la relation, et ça peut amener des sentiments amoureux et ensuite l'adultère. Vous qui êtes parents, ayez des relations plus profondes avec vos enfants. Recherchez des relations profondes. Ce n'est pas forcément simple quand ils sont ados, mais continuons à garder un contact fort avec nos enfants. C'est précieux et c'est ainsi que nous aurons un fort impact dans leur vie. Nous, Église de Dieu, nous avons dit multiculturel. Osons des relations profondes avec une autre culture. Oui. Et puis, osons aussi, nous qui sommes une église multigénérationnelle, osons des relations avec un autre âge. Moi qui suis adulte, avec un enfant. Ou un enfant avec un adulte. Et puis, nous, église multisociale, osons des relations profondes avec ceux qui sont d'un autre statut social. Qu'il n'y ait aucune barrière entre nous. Comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Chacun peut apporter quelque chose à l'autre, le faire grandir, le bénir, l'encourager, l'amener plus loin dans la relation avec Dieu et dans sa propre vie. Chacun peut bénir l'autre. Donc soyons humbles pour recevoir. En ce jour de petits groupes, je prie que ces lieux nous aident à avoir des relations plus profondes les uns avec les autres. Comme nous ne pouvons pas vivre des relations profondes avec tout le monde, mais qu'avec quelques personnes, j'aimerais te poser juste une question pour finir. Qui est la personne ou les personnes, les quelques personnes, avec qui tu peux vivre des relations profondes et être un fort encouragement dans leur vie? Qui sont là ou les personnes? Donc pour vous les couples, vous savez déjà, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes. Pour vous parents aussi. Il est important de répondre à cette question et ensuite de soigner ces relations pour qu'elles soient plus profondes, des relations profondes, vraies, qui permettent de vivre des choses fortes pour la gloire de Dieu. Je vais prier. Dieu notre Père, encore un immense merci pour Jésus-Christ, notre plus beau cadeau. Il a donné sa vie pour nous libérer de la mort, afin que nous ayons la vie éternelle. Merci parce que cette vie éternelle, c'est une vie parfaite en amour, en relation d'amour avec toi et les uns avec les autres. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, au point de vivre des relations toujours plus profondes. Que l'orgueil et l'égoïsme continuent à diminuer pour laisser place à des relations profondes et vraies. Que le désir d'exister, d'être valorisé et en sécurité soit comblé en toi, afin de mieux vivre nos relations. Continue ton œuvre en nous pour des relations profondes, solides et vraies. Qui affiche, élève ta gloire et proclame la véracité de l'évangile de Jésus-Christ au monde entier. Te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.